RFI, il est 17h à Paris, 15h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, la situation à Gaza et des déclarations contradictoires. Les États-Unis ont fait une proposition de trêve, proposition acceptée au préalable par Israël jeudi. De son côté, le Hamas n'a factuellement pas accepté la proposition. Les détails dans un instant. Aux États-Unis, Donald Trump et ses droits de douane, toujours au centre de l'attention politique et médiatique. Mercredi, un accrochage a eu lieu dans le bureau ovale après la question d'une journaliste. À Hong Kong, la libération de 4 militants pro-démocratie ce vendredi après 4 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, soit un mois après la libération d'un premier groupe de condamnés en 2021. Et puis Roland Garros, troisième tour des internationaux de France. Aujourd'hui, on sera en direct de la Porte d'Auteuil à Paris avec Éric Mamrut du service sport. Gaza est l'endroit le plus affamé au monde où 100% de la population est menacée de famine. Déclaration aujourd'hui de l'ONU, alors qu'un ministre israélien d'extrême droite a appelé le gouvernement à employer toute la force nécessaire contre le Hamas. Des propos qui interviennent alors que les négociations sur un cessez-le-feu pour mettre fin à près de 20 mois d'une guerre dans la bande de Gaza n'ont pas encore abouti depuis la reprise des combats. Les États-Unis ont fait une proposition de trêve, proposition acceptée au préalable par Israël. Jeudi, avait annoncé la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt. Le Hamas n'a factuellement pas accepté la proposition de trêve. On assiste, Alice Froussard, à des déclarations contradictoires.
Oui, et ce n'est pas étonnant. Le mouvement islamiste palestinien, par la voix de Bassem Naïm du bureau politique, un dirigeant en exil, a d'ailleurs été clair. Cela signifie, je cite, la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine. Surtout, cela ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien, dit-il. Mais la direction du Hamas précise qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir et qu'elle donnera une réponse à cette proposition. Comme le fait remarquer la presse israélienne, il est plutôt inhabituel pour Israël d'accepter un accord de cessez-le-feu avant le Hamas, un peu comme si Benjamin Netanyahou avait pu parier sur le fait que ce plan serait impossible à accepter pour le mouvement islamiste palestinien. C'est déjà arrivé par le passé. Celui que l'on surnomme Bibi, poursuivi par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, leur avait ensuite fait porter la responsabilité de l'échec de l'accord. C'est d'ailleurs la position adoptée par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, connu pour ses positions extrêmes. Selon lui, après ce rejet du Hamas, en tout cas après cette non-acceptation, il n'y a plus d'excuses. Nous avons déjà manqué trop d'occasions. Il est temps d'y aller avec toute la force nécessaire, sans sourciller, pour détruire et tuer entièrement le Hamas. Voilà ce qu'il écrit sur sa chaîne Telegram.
Les précisions d'Alice Froussard du service international de RFI. La situation à Gaza fait aussi parler le président français Emmanuel Macron depuis Singapour. Si les Occidentaux abandonnent Gaza et laissent faire Israël, ils risquent de perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde, a-t-il déclaré. Précédemment, le président français avait exprimé que la reconnaissance d'un État palestinien était un devoir moral et une exigence politique. Une conférence à l'ONU sur le sujet est par ailleurs prévue le 18 juin prochain. La France et l'Arabie saoudite coprésideront cet échange. Et sur fond de guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a aussi fait des déclarations depuis Singapour. Si nous considérons que la Russie peut être autorisée à s'emparer d'une partie du territoire de l'Ukraine sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que dira-t-on au sujet de ce qui pourrait se passer à Taïwan, a-t-il lancé. Par ailleurs, Kiev se dit prête à participer à de nouveaux pourparlers proposés par la Russie. Nouveau cycle de discussions prévu à Istanbul lundi prochain. Le 16 mai dernier, les deux pays avaient déjà suivi un cycle de négociations sous pression américaine, mais elles n'ont pas abouti. L'Ukraine a demandé à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Et il y a quelques minutes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que Moscou refusait d'envoyer son mémorandum nécessaire, selon lui, à la tenue de potentiels pourparlers. Par ailleurs, le Kremlin écarte une rencontre proposée par la Turquie entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump sous l'égide du président turc Erdogan et conditionnant tout sommet de ce type à l'obtention de résultats dans les négociations avec Kiev. Le ministre turc des Affaires étrangères en visite à Kiev avait proposé plus tôt que la Turquie accueille une rencontre entre tous ses chefs d'État. On parlait des États-Unis, justement. Donald Trump est face à ses contradictions et ses girouettes sur sa politique de taxes douanières réciproques. Mercredi, lors d'une conférence de presse, c'est un léger accrochage qui a eu lieu à la Maison Blanche. On l'a appris hier. Une journaliste a interrogé Donald Trump sur un terme employé dans les milieux financiers américains. TACO, Trump always chickens out, en français, Trump se dégonfle à chaque fois. Et le président américain n'a pas aimé Lila Olkinwara.
Oh, c'est charmant. Je me dégonfle. Je n'avais jamais entendu cela.
Un Donald Trump visiblement agacé par la référence à l'expression tacos, ou en français, Trump se dégonfle toujours. Un terme rapporté par un éditorialiste du quotidien Financial Times. Il souligne la tendance qu'a le président américain à faire marche arrière sur ses propres décisions quand elles affolent trop les indices boursiers. Sauf que pour Donald Trump, c'est le cœur de sa politique commerciale.
Parce que j'ai réduit les 145% que j'avais fixés pour la Chine à 100%, puis encore à un autre chiffre, ou parce que j'ai imposé à l'Union européenne une taxe de 50% et ils ont appelé, ils ont dit « S'il vous plaît, rencontrons-nous tout de suite et nous nous rencontrerons le 9 juillet ». Vous appelez ça se dégonfler ?
C'est en tout cas la théorie qui émerge à Wall Street. Les analystes financiers considèrent désormais les propos du président américain comme non fiables, facilement réversibles, et les prennent donc moins au sérieux, insupportables pour Donald Trump.
Il y a 6 mois, ce pays était mort. Nous avions un pays dont les gens ne pensaient pas qu'ils allaient survivre. Ce que je fais, c'est de la négociation.
Un signe supplémentaire de la déconnexion entre le monde de la finance et le président américain.
Lila Olkinuora. Et en pleine guerre commerciale sur fond de taxes douanières, Donald Trump accuse aujourd'hui la Chine d'avoir totalement violé un accord sur les droits de douane avec les États-Unis. Le 12 mai dernier, Pékin et Washington avaient convenu de baisser temporairement leurs droits de douane réciproques pendant une période de 90 jours afin de négocier. Et toujours sur fond de taxes douanières, après cette décision, la décision de la justice américaine de suspendre les droits de douane de Donald Trump, l'Union européenne se dit pleinement investie dans les négociations avec les États-Unis. Trouver une solution reste une priorité absolue, souligne le commissaire européen au commerce. Il a échangé par téléphone hier avec le secrétaire américain au commerce. À Hong Kong, la libération de 4 militants pro-démocratie ce vendredi, après plus de 4 années derrière les barreaux pour atteinte à la sécurité nationale. Ces libérations interviennent un mois après celle d'un premier groupe d'anciens députés également condamnés lors d'un procès historique en 2021 et qui avait débouché sur la condamnation de 45 figures de l'opposition à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. Les précisions de Yelena Tomic.
Ils s'appellent Kindali, Roy Tam, Henry Wong et Jimmy Chan, un militant politique LGBT qui avait dirigé l'un des plus grands groupes pro-démocratie de l'ancienne colonie britannique, le Front civil des droits de l'homme, connu notamment pour avoir organisé les gigantesques manifestations antigouvernementales de 2019. Ces personnes font partie des 47 militants pro-démocratie qui ont été arrêtés et inculpés début 2021 en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Ce procès avait marqué un tournant dans la répression du mouvement pro-démocratie. En novembre dernier, 45 des accusés ont été condamnés à des peines allant de 4 à 10 ans de prison. Ces libérations interviennent un mois après celles de 4 figures de l'opposition hongkongaise qui avaient retrouvé la liberté après avoir purgé plus de 3 ans de prison pour subversion en participant à une élection primaire non officielle en vue de législative, une initiative considéré comme un acte de défiance envers l'exécutif pro-Pékin.
Et sur fond de dérèglement climatique, cette étude, la moitié de l'humanité a subi un mois supplémentaire de canicule l'an dernier, en cause le réchauffement provoqué par l'homme. Des résultats qui montrent que l'utilisation continue de combustibles fossiles nuit à la santé et au bien-être sur tous les continents. Et enfin du tennis avec le troisième tour à Roland-Garros. Éric Mamrut, bonjour. Éric Mamrut ?
Oui, bonjour.
Actuellement, Quentin Alice, l'un des deux derniers Français en lice, est en difficulté sur le court central du tournoi parisien.
Effectivement, cinquième set de la partie qu'il oppose à Holger Rune, le Danois dixième joueur mondial. Il est mené dans cette ultime manche 4-2. C'est compliqué pour Quentin Alice qui a été tout proche, qui a humé de près la victoire. Ça première qualification pour un huitième de finale en Grand Chelem. Il la tenait presque. Il a mené 2-1, 5-4 dans le quatrième set. Donc, il y a eu quelques petites erreurs grossières. Le Danois a eu pas mal de réussites. Il a serré le jeu également, le dixième joueur mondial, pour empocher ce set 7-5. Et actuellement, eh bien, il a fait le trou, Holger Rune. 5-2, service à suivre. C'est-à-dire que le scénario de Wimbledon l'an dernier va se répéter. Déjà au deuxième tour, Holger Rune s'était débarrassé du Français au bout de 5-7. Dommage pour le Français. 52e mondial qui a peut-être laissé une belle occasion, eh bien, de créer la plus belle, le plus beau parcours de sa carrière.
Merci, Éric Mamrut, en direct de Roland-Garros. Tout de suite, le Pont des Arts avec Nathalie Amard.